Quelque chose, et donc on va avoir un temps pour quelques témoignages. Donc je pense, Marie-Noëlle, tu avais quelque chose que tu voulais partager avec nous. Et
Merci. Pendant la louange, j'ai reçu deux images. Donc je voyais, c'était un bateau. Je pense que le bateau, c'était vous. Et c'est magnifique ce qu'il y a autour de vous. Mais Dieu, il y a encore des choses encore plus belles, plus loin. Et je voyais aussi dans ce bateau des gens qui étaient fatigués par la vie, par les soucis, par les décisions à prendre ou la maladie. Enfin, je voyais vraiment des gens qui étaient fatigués dans ce bateau. Et je pense que Dieu leur dit, donc c'est dans Matthieu 6, « Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. » Et ton Père qui voit tout ce que tu fais en secret te récompensera. Je pense que dans l'intimité avec Dieu, on a vraiment des clés et il y a vraiment des choses qui se passent quand on est dans l'intimité avec Dieu. Et pas seulement 5 minutes, je suis désolée de le dire, mais enfin, faut prendre du temps avec Dieu et je pense que Dieu nous invite à vraiment prendre du temps avec lui.
Merci, merci. Et Jean-Luc aussi, tu voulais dire quelque chose?
Juste avant qu'elle me le partage aussi, mais Cantique des Cantiques, chapitre 1, au verset 4, le roi m'a introduit dans ses appartements. Et je sentais vraiment cet appel du Seigneur à rentrer dans ses appartements. Ça parle de l'intimité aussi, et ça parle de parfum aussi. C'est comme si le Seigneur disait, mais chacun de vous, vous portez mon odeur, une odeur de vie, un parfum. Et dans mes appartements, je veux que ce parfum soit encore plus fort. Et ce parfum va se répandre. Et c'est un encouragement pour beaucoup qui se disent, je ne sais pas parler, je ne sais pas convaincre. J'ai l'impression que mais le Seigneur te dit, mon parfum en toi va se répandre. Tu n'auras pas besoin de beaucoup parler. Rien que ta présence. Mon parfum en toi va dégager la bonne odeur de vie, de résurrection. Voilà. Donc c'est tout à fait dans la pensée de ce que vient de partager Marie-Noëlle.
Merci. Et Michel, tu voulais dire quelque chose aussi.
Bon ben moi, c'est depuis que je me suis offert à Dieu par le baptême, j'ai du changement à 100%. Au niveau santé et tout. Et j'ai eu un petit... d'étincelle. Voilà. Qu'il faut lire un peu la Bible tous les jours. Parce que s'il y a un trou, c'est pas bon. C'est tout. Moi, je suis content, ça, tout va bien.
Alléluia, merci. C'est pas s'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait dire un petit mot, hein, vous êtes libre. Hein. Sinon, je vais vous assassiner avec la parole. Et donc, voilà, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Hein, c'est une belle fête aujourd'hui. Et il y a 2 semaines ou 3 semaines, on était dans notre étude biblique et nous sommes en train d'étudier la puissance de l'intimité. Et combien connaître Dieu, c'est une puissance dans notre vie. Et on était étonnés, moi j'étais défié, même en l'enseignant, tout d'un coup j'étais frappé par ce que Paul disait en Philippiens 3, verset 10. Et il disait ceci, mon but, je ne sais pas si vous avez des buts dans votre vie, hein, quand j'étais jeune, mon but c'était de, bon, je ne vais pas vous dire parce que ce n'était pas très glorieux, hein, mais j'allais dire une bêtise. Bon, d'être le plus grand footballeur du monde, mais ce n'était pas ça. Mon but, qu'est-ce que c'est votre but dans la vie? Mais mon but, dit Paul, mon but est de la connaître, est de le connaître. Mon but est de le connaître. Je dis, mais c'est fantastique d'avoir ça comme une ambition dans notre vie, de connaître Dieu. Mais après, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. Et donc, pour lui, la résurrection n'est pas juste, bon, c'est une fête, mais c'est pas juste une fête, c'est pas juste une chose qu'on fête une fois par an. Voilà, c'est il y a vendredi saint, c'est la croix, et après il y a samedi on attend, et après dimanche alléluia il est ressuscité, et après lundi lundi. Je ne sais pas si encore c'est vendredi saint encore. Hein, je ne sais pas. Mais il est ressuscité pour toujours. Et donc Paul disait, mais moi je veux connaître quelque chose de cette puissance qui a fait sortir Jésus du tombeau. Je veux connaître cette puissance de résurrection. Et il dit, je veux connaître la puissance de sa résurrection. Et aussi, bien sûr, il y a toujours une croix et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Et donc, en disant ça, voilà, la résurrection. Est-ce que nous avons, chacun de nous, une révélation de résurrection? Une révélation. Voilà, c'est dans ma tête, mais dans mon cœur. Je pense que la plus grande révélation de résurrection, c'est quand on se convertit. Parce que d'un côté, quelqu'un nous a parlé, quelqu'un de vivant. On ne s'est pas converti à un mort. C'est Jésus ressuscité qui nous a parlé. Et même si c'était un petit chuchotement, on l'a entendu. Et donc, quelque part, nous pouvons connaître cette puissance de résurrection, chacun de nous. Et je pense que Paul, j'aimerais bien parler de Paul, parce que lui connaissait la résurrection par son témoignage personnel aussi. Parce que quand il était sur le chemin de Damas, sa vie a complètement changé. Et il n'a pas été changé parce que tout d'un coup il a vu la croix. Hein, il avait peut-être vu la croix quand Étienne était mort. Vous savez, quand Étienne était témoin, et tout le monde jetait des pierres contre Étienne. Et je pense que là, c'est là où probablement Paul a été interpellé. Je pense que quelque chose était préparé là parce qu'il a vu le sang d'Étienne couler. Et dans ce sang d'Étienne, il y avait une image vraiment du sacrifice de Christ aussi, qui était toujours loin de Paul. Il ne connaissait pas, il ne comprenait pas ça. Mais vous savez, si vous regardez en Actes chapitre 9, quelques jours plus tard, on voit Actes chapitre 9, la conversion de Saül, ou de Saul. Oui, Actes chapitre 9, et à partir de verset 3. Et donc, avant de lire tout ça, j'aimerais juste dire une phrase. La révélation de la résurrection exige une réponse missionnaire. D'accord? C'est pas juste quelque chose de neutre. Voilà, on vit la résurrection dimanche, et lundi, après, rien, plus rien. Et je suis vaincu, et toutes les difficultés de la vie. Bon, il y a la communion avec les souffrances. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a la possibilité de connaître la puissance de la délivrance. Pas juste aujourd'hui, mais tous les jours. Et donc, la révélation, c'est ça qu'il faut, une révélation plus grande, Seigneur. Bravo à ta grâce. Même ce matin, donne-moi une plus grande révélation de ta résurrection. Mais cette révélation exige de nous une réponse missionnaire. Et on voit ici pour Paul, en Acte 9, à partir de verset 3, comme il était en chemin, nous sommes tous en chemin dans notre vie, chaque jour, il était en chemin, il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. On aimerait tout ça. Hein, que, bon, il y a juste un jour au bureau. Voilà, je suis en chemin. Je vais arrêter quelques personnes. C'est mon boulot. Je vais les mettre en prison. C'est mon boulot. Et donc, dans ce quotidien, tout à coup, paf, tout a changé. Il y avait une révélation de résurrection. Et moi, je dirais que dans tous nos chemins cette semaine. Voilà, on va faire notre boulot, on va prendre la voiture, on va être sur l'autoroute, on va prendre le métro, on va faire des choses, on va aller à l'école, on va aller à l'Uni. On est sur le chemin. Mais sur ce chemin, est-ce que tout d'un coup, voilà, paf, Jésus est vivant, il peut me toucher, son doigt, paf, lumière, il pousse le bouton et quelque chose change. Et donc, il y a une réalité, la puissance de la résurrection peut envahir notre quotidien, d'accord? Faut s'attendre à ça, parce que le monde n'est pas juste fait comme ça, c'est l'ordinaire chaque jour. L'extraordinaire pour envahir notre ordinaire. C'est ça la résurrection. Quelque chose de complètement extraordinaire, une guérison. Les médecins ont dit c'est fini, mais l'extraordinaire pour envahir notre ordinaire. Quelqu'un qui vit le deuil, quelqu'un qui est démoli par la vie, et normalement il doit tomber, être déprimé, mais tout d'un coup il a de l'espérance. Amen. Il y a de l'espérance et on a une victoire de ressusciter dans notre cœur parce que la résurrection a envahi mon quotidien. Le Jésus vivant, il est vivant aujourd'hui. Et donc c'est ce qui s'est passé pour Paul. Et verset 4, la première chose qui lui arrive, il tomba par terre. Il tomba par terre. C'est l'humiliation de nos forces humaine. Il y a certaines situations où on ne peut plus rien faire nous-mêmes. Paul, il était intellectuel, il avait tout son CV religieux derrière lui, mais finalement, il était faible. Il ne pouvait pas compter sur ça et il tombe par terre. C'est là où on rencontre la résurrection, c'est dans l'humiliation aussi. C'est dans l'humilité. Quelquefois qu'on est cassé, quand on peut pas, on est cassé, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'espérance. Mais là, c'est là où il n'y a pas de l'espérance. Quand on est par terre, quand on est brisé, quand notre sagesse, quand notre force est finie, on est au bout de notre rouleau et après, on rencontre la résurrection. Au bout du rouleau, il y a un signe qui s'appelle « Ceux qui veulent connaître la puissance de résurrection, entrez ici ». Donc si vous êtes arrivé au bout du rouleau aujourd'hui, choisissez la porte de la résurrection. Il n'y a pas d'autre porte. Hein. Les autres portes mènent à la destruction. Satan, il y a une grande porte. Énorme. Elle est passée par ici. Toutes les choses qui peuvent nous adoucir un peu. Il y a beaucoup de choses. Hein. On est obligé, moi, dans mon passé. C'est ça. On est fort dans la faiblesse. Alléluia. Mais passe par la porte étroite de la résurrection. Et après... Après, il dit, voilà, il tombe par terre. Et après, il y a quelque chose qui est beau. Il entendit une voix. Merci Seigneur. Il entendit une voix. Et là encore, le ressuscité parle. Un Dieu mort ne parle pas. Un Dieu ressuscité avec une voix ressuscitée. Et cette voix ressuscitée se fait entendre dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une lettre morte. C'est une lettre de résurrection. C'est une lettre de vie. Les paroles de Jésus traversent l'histoire. C'est pas juste un livre historique, art culturel, c'est intéressant. On l'approche. On s'approche de la Bible comme on s'approche d'une parole ressuscitée. Comme une parole qui va, paf, nous parler. C'est ça la réalité. J'ai cette relation avec cette parole. Et je vous encourage à cultiver cette relation même, mais on n'a pas besoin d'être un grand intellectuel et de tout comprendre, la théologie. Même de prendre un petit verset là, ça peut exploser dans notre cœur et nous libérer. Et ça, il faut une relation avec la ressuscité. Et ça nous donne des oreilles pour entendre les paroles vivantes du ressuscité. Il a entendu une voix. Alléluia. Écoutez une voix. Juste une petite parenthèse. Si on peut voir en Deutéronome, c'est tout au début de Genèse, là, ou dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 30. J'ai lisé ça l'autre jour et je voulais l'inclure dans le message ce matin. Parce que quelquefois les gens peuvent dire, oh mais c'est dur tout ça, c'est trop dur pour moi, j'ai déjà essayé. Écouter Dieu, c'est trop dur. C'est trop dur. J'arrive pas. C'est bien pour toi, Robert, tu parles. Mais moi, j'arrive pas. J'arrive pas. Ça marche pas. C'est trop difficile. Écoutez Dieu. J'ai jamais entendu la voix de Dieu. Mais j'ai dit, voilà, écoutez ce que Moïse dit en Deutéronome 30, verset 11. Il dit, en effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Quand même, ce que Moïse, parole de Dieu, écoutez Dieu, parce que les gens, ils pensent que Je ne sais pas si c'est l'héritage un peu catholique, il n'y a que le prêtre qui a des oreilles pour comprendre. Nous, on est juste là. On ne connaît rien, nous. Non. Chacun de nous, tellement précieux. Chacun de nous est... On peut être chacun un pape ici. Moi, je veux donner les... C'est chacun peut être vraiment rempli d'une parole qui change le monde, qui change la vie. C'est ça la révélation, je dirais, protestante. On est tous des sacrificateurs. Chacun peut entendre Dieu. Ah, mais c'est trop difficile. Non, c'est pas trop difficile. C'est pas hors de ta portée. Tu n'as pas besoin, il dit, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montre pour nous au ciel. Ah, c'est super spirituel, il faut montrer au ciel. Moi, je suis pas spirituel. Non, on n'a pas besoin d'aller au ciel. Ah, il n'est pas, verset 13, il n'est pas de l'autre côté de la mer. C'est pas difficile. Oh, il faut prendre un bateau, ou si vous êtes Françoise Hollande, tu vois, un pédalo pour y aller. Tu vois, voilà. Ça prend longtemps. On rame. C'est difficile d'entendre la parole de Dieu. Il faut aller loin, l'autre bout de la mer. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer. Verset 14. Cette parole, au contraire, est tout près de toi. Tout près de toi. Cette voix de Dieu, le ressuscité, il est tout près de toi. Dans ta bouche. Quelquefois, les gens, c'est magnifique, ils parlent des... Moi, j'entends Dieu au travers de leur bouche, ils ne se rendent pas même compte que Dieu les utilise. Et les gens qui, toutes timidement, disent « Oh, c'est pas de Dieu, non. » Ils disent qu'ils sont plaf, ça ouvre quelque chose, ça bénit les gens. Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Et finalement, la parole de Dieu, écouter la parole, c'est pas un processus intellectuel, c'est pas un processus humain, c'est un processus relationnel. C'est un processus de foi, c'est pas difficile. C'est pour nous tous, c'est juste de dire oui Jésus, je veux cette parole de ressuscité dans mon cœur. Je veux maintenant cette parole de ressuscité dans mon cœur, je l'accueille comme le pain qu'on a mangé ce matin. C'est donné, on n'a qu'à à mettre à la bouche, c'est dans notre bouche, après dans notre cœur. Une parole vivante, une parole. Ce pain n'est pas un pain mort, même si ça nous parle de la croix. Mais c'est un pain vivant qui entre en nous. Et c'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile. Allez, en nous revenant en Actes chapitre 9. Faut pas que je respire trop fort. Hein. C'est comme un de... Allez. Actes chapitre 9. Voilà, la révélation de la résurrection exige une réponse. Donc Paul, il est par terre, verset 5, « Qui es-tu Seigneur ? » Moi je suis Jésus, d'accord ? Je suis Jésus. Donc, c'est toute une vie hein, d'avoir cette révélation de Jésus. Mais je suis Jésus, il n'est pas tout faible, un petit Jésus tout faible. Mais c'est le Jésus ressuscité. Je suis Jésus. Mais aussi le Jésus qui était dans les Juifs qui persécutaient. Là, c'était le Jésus tout faible aussi. Tout faible. Il y a une sorte de réalité conjointe entre la faiblesse et la force. Paul vient de tomber de son cheval parce qu'il a vu Jésus ressuscité. Mais Jésus dit, tu me persécutes. Je suis Jésus que tu me persécutes. Et celui qui est le roi des rois, celui qui a le nom qui est au-dessus de tout autre nom, il est aussi cette petite veuve que Paul mettait en prison, cet enfant qui criait. Et donc Dieu existe, sa résurrection existe dans notre faiblesse, mais aussi dans notre force. C'est une sorte de paradoxe quelque part. La résurrection n'est pas juste triomphaliste, la résurrection est aussi faiblesse. Parce que l'Église, nous, on est faibles. Mais il y a une force dans cette faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et donc, devant cette révélation, je suis Jésus que tu persécutes. Et après, il ajoute, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Et après, réponse. C'est le point central de ma prédication. tout tremblant et stupéfait. Je ne sais pas la dernière fois où tu étais tout tremblant et stupéfait devant une révélation de Jésus. Oh, moi, je parle à moi-même, là. Oh, j'ai tellement l'habitude, oh, Jésus. Oh. Mais tout tremblant et stupéfait. C'est bien d'avoir ces moments, non? Moi, je vois un Dieu qui me fait trembler un peu. Pas juste ce vieux Dieu dans le ciel avec une barbe et tout gentil, dans les bonbons à tout le monde. Mais quand même, il est saint. Il est saint. Il est tout puissant. Tout tremblant. Et Paul, il dit, oh, mais j'ai fait des bêtises. Mince. Je suis dans la présence de celui et je suis en train de persécuter Dieu. Il était quand même juif, Paul. Il avait une ouverture quand même pour ces choses de Dieu. Et donc, tout tremblant et stupéfait, il dit, qu'est-ce que moi je vais dire ce matin? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et donc, dimanche de résurrection, d'accord? Révélation de résurrection. Mais maintenant, voilà, face à cette révélation, que veux-tu que je fasse? C'est une question qui exige une réponse d'un côté. Que veux-tu que je fasse? Est-ce que je peux dire ça devant Dieu ce matin? Dans mon cœur, voilà, je fête la résurrection. Mais je dis, mais Seigneur, avec toute cette... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est une décision d'être actif, quoi. C'est une décision missionnaire, ça. C'est une décision de, je veux changer. Je veux changer ma famille. Je veux changer, pas pour le mal. Changer, être un ouragan qui détruit tout le monde, non. Mais changer pour le bien, servir. Où est-ce que, qu'est-ce que tu veux que je fasse cette semaine avec ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse? Ça peut être une cri de cœur. Quelque chose qui sort des tripes, parce que c'est pas une prière simple. Quand c'est vrai, c'est une souffrance aussi. Je pense pour Paul, c'était terrible. Il a été cassé. Il était par terre. Toute sa vie a été bousculée, anéantie presque, tout son chemin qu'il allait prendre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je vais vous donner 3 réponses à cette question. Mais c'est des réponses que Dieu donnait à Paul. Donc nous, on n'est pas l'apôtre Paul. Mais dans ces réponses, chacun de nous, nous pouvons trouver le petit Paul en nous. On peut trouver l'élan missionnaire que Dieu nous donne. Quelque chose qui a une réponse à cette résurrection. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc là, si on descend un peu, la réponse à cette question vient par un serviteur qui s'appelle Ananias. C'est pas Anana, hein, c'est Ananias. Et Ananias répondit, quand Dieu lui demande d'aller vers Paul, il dit, oh, mais cet homme a fait beaucoup de mal. Donc, quelquefois, notre réputation peut nous précéder. Mais la résurrection est plus forte que notre réputation. Alléluia. C'est pas si vous avez une réputation. Oh. Mais Paul, il avait une réputation déjà dans les églises. Oh, mais lui, il faut pas... Mais d'un côté, la vraie puissance de la résurrection changeait la réputation, changeait le passé. Paul n'était plus lié par son passé. Et après, verset 15, c'est la première réponse. Je vais vous donner 3 réponses. Hein. Mais la première, que veux-tu que je fasse? Première réponse, Dieu dit il dit à Ananias, le Seigneur lui dit, va, car cet homme Paul, est un instrument de choix. Et pour moi, un instrument de choix. Et je pense que quand chacun de vous, vous êtes un instrument de choix, le Seigneur a choisi. Il faut y croire. Dieu m'a choisi. Il y a quelque chose. J'aime bien cette phrase, un instrument de choix. C'est comme une orchestre. Il y a des violons, il y a des flûtes, il y a les tambours. Et chacun de nous, on est un instrument à jouer. L'Église n'est pas juste un pasteur qui joue le trombone. C'est tout le monde qui contribue. Et l'Église est plus que dimanche matin. C'est tac, tous les jours, je peux être un instrument de choix. Donc, mon métier, là où Dieu m'a placé, avec mes talents, avec mon caractère, avec ma manière d'être. Il y a les gens qui sont très doués pour l'écoute. On écoute, ces gens, ils sont là, les gens, ils gravitent autour d'eux parce qu'ils écoutent. Peut-être que ces gens ont souffert et donc ils ont comme une éponge, une capacité de recevoir. En écoutant, ils guérissent les gens, juste comme ça. Il y a d'autres personnes qui sont très diaconales, je dirais, ils serrent, ils font des choses. Et Dieu a préparé cet instrument, il a préparé cet instrument. Donc, cet homme est un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations. Les nations, c'est devant les non-chrétiens. Là, c'était des païens, mais les non-juifs à l'époque. Mais nous, on est des instruments de choix, pas pour juste bénir l'Église. C'est bien d'être utilisé dans l'Église. Mais Dieu veut nous utiliser pour les nations, pour les gens d'or. Être un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations et les rois. Devant les rois, devant les fils d'Israël. Devant les rois, ça veut dire avoir une influence dans le monde laïque aussi. Dans les municipalités, là où on habite. Avoir une influence dans la ville, dans la société. Donc tout ça, c'est super. Voilà, Seigneur, un instrument de choix. Je vais témoigner, je vais changer le monde. Et après, il ajoute, et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection et aussi la communion avec ses souffrances. Parce qu'il n'y a rien qui est bon marché avec Dieu, malheureusement. Mais heureusement, parce que quelquefois même ses souffrances, ça forge notre caractère. Ça forge notre caractère. Et quand on témoigne, c'est vrai, je ne veux pas dire que c'est facile. On va essuyer des moqueries, des rejets. On n'est pas dans un contexte très favorable en France quand on parle de Jésus. Si on parle de New Age et n'importe quoi, ça passe. Mais si on veut dire, voilà, Jésus, vraiment, ressuscité, et j'y crois, et je crois à la parole de Dieu, et waouh, il y a des souffrances. Bon, tout est relatif. Je ne vous souhaite pas du tout de souffrir comme Paul. Mais lui, il connaissait aussi une puissance extraordinaire. Et on va probablement pas connaître la même puissance que Paul, mais qui sait, hein? Qui sait si tout d'un coup, voilà, en conduisant une lumière et tout le reste, on verra. Et je pense que Paul, il dit, oh, je changerai rien. Je suis sûr que si on écoutait Paul dans le ciel, je ne changerai rien de ça. Je ne changerai rien de ça, la puissance de mon témoignage, comment j'ai pu implanter toutes ces églises et changer l'histoire du monde. Ça valait la peine de souffrir un peu pour tout ça. Donc, première chose, allez, on va regarder un autre verset, Actes 22. C'est quand il témoigne un peu plus tard. Actes 22 et 14, 16. Je vais juste le lire. C'est lui qui raconte la même histoire. Il dit, le Dieu de nos pères... Non, voilà, c'est Paul qui raconte son témoignage. Et après, il raconte les paroles d'Ananias. Mais c'est un peu différent, verset 14. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Et là encore, je veux dire ça sur vous ce matin. Il y a une destinée sur votre vie. D'accord? Il t'a appelé individuellement maintenant. Il t'a destiné à connaître sa volonté. Là, il y a des choses, Dieu, il a un projet pour toi. Il t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, une plus grande révélation de Jésus-Christ ressuscité, à connaître et à entendre les paroles de sa bouche. Voilà, ça semble être le message ce matin. Écoutez, donnez le temps de fermer la porte dans la chambre et d'écouter les paroles de sa bouche. Tu seras son témoin devant tous les hommes. Alléluia. Si nous pouvons prendre ça, vous savez, on a une vision 50, 7 groupes contacts ou moins, ça peut être plus, avec chaque groupe contact qui dit, je vais être témoin devant les hommes. Juste témoin, je vais raconter ce que moi j'ai vu, ce que j'ai entendu de Dieu, tout simplement. Et comme ça, voilà, Dieu fera des choses. Tu seras témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. C'est bien ça. Cette semaine, j'ai vu Dieu agir comme ça. Cette semaine, Dieu, comme Marie-Noël, est venue partager ce qu'elle a entendu. Tout simple. Voilà, Dieu m'a dit. On peut dire ça aux autres personnes autour de nous. Qu'est-ce que Dieu m'a dit cette semaine? Et quand on prépare un groupe ou une rencontre, voilà ce que Dieu m'a dit. Quand on utilise les dessins animés, tout simple. On est un instrument de choix. Chacun de nous est un instrument de choix au travers des concerts, au travers de tout l'instrument de choix que Dieu nous donne à utiliser. Alléluia. Et maintenant, voilà, verset 16. Grand défi. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? C'est toujours la question de Dieu. Voilà, moi j'ai fait mon boulot. Église, pourquoi tardes-tu? Parce qu'on a peur, parce qu'on est d'accord. Il dit, voilà. Mais pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Lève-toi, sois baptisé et va jouer ce rôle de témoin. Alléluia. Acte 26, c'est un dernier. La dernière réponse à « Que veux-tu que je fasse ?» C'est encore Paul. Il donnait beaucoup son témoignage, Paul. Hein. Il n'avait pas peur de répéter devant les rois, devant les gens. Et il raconte encore tout son témoignage devant Agrippa. Et cette fois, on va voir versets 16 à 18 de Acte 26. 16 à 26. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. On a déjà vu ça, mais il ajoute quelque chose cette fois. Je t'ai pris au milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Donc là, c'est ajouter encore une chose, vers la lumière, qu'il se tourne des ténèbres vers la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu. Il y a ce mandat sur nous de piller le royaume de Satan, d'arracher les gens des pouvoirs de Satan, de ses mensonges, de ses addictions, de ses démons. Et là, il ne faut pas avoir peur. Parce que là, quand on témoigne, on va confronter les gens qui ont toutes sortes de choses. Mais là, la puissance de ressusciter, ça envahit les gens de lumière. Et ça brise des liens. Et ça, c'est chacun de nous pour être utilisé pour ça. Déjà parce que nous vivons, parce que nous avons le témoignage que moi, j'ai été délivré des griffes de Satan. Et nous aussi, on peut donner ce message aux autres. Alors voilà, trois réponses. On a déjà vu trois réponses. Que veux-tu que je fasse? La révélation de la résurrection exige une réponse missionnaire de chacun de nous. Et après, verset 19, toujours en acte 26. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Alléluia. Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Et qu'est-ce que c'est une vision céleste? C'est cette vision de la résurrection. C'est la vision du ciel. C'est la vision de cette résurrection qui a bouleversé cette vie quotidienne. C'est la vision de ma conversion. C'est la vision de tout ce que Dieu a fait en moi. Et donc cette vision, je ne peux pas désobéir à cette vision. Ou peut-être on peut. Si Paul dit « Moi, je n'ai pas désobéi », peut-être il aurait eu la possibilité. Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas, j'ai peur, je ne veux pas. D'accord, il y a des moments de lutte. Mais je dirais que l'Église ne doit pas fuir sa responsabilité missionnaire, sa responsabilité de proclamer la lumière à ceux du dehors. Ce n'est pas juste pour nous, ce n'est pas juste un club, c'est pour les gens du dehors. Et donc, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Que chacun de nous puisse dire ça. Peut-être on doit travailler ça, peut-être ça va prendre des mois, des années. Hein. Je n'ai pas désobéi. Chaque jour, on a ce choix. Je ne veux pas désobéir à la vision céleste. Alléluia. Alléluia. Donc pour terminer, revenons à Acte 9. C'est Paul a reçu trois choses. Il a reçu l'onction pour ça, pour ne pas désobéir à la vision céleste. L'onction de Dieu, verset 17. Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül. C'est 9-17, acte 9-17. Il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Alléluia. Alléluia. Que nous soyons de nouveau, ce jour de résurrection, remplis d'Esprit Saint. Alléluia. Maintenant même, Saint-Esprit, vienne. Remplis nos cœurs. Parce que sans le Saint-Esprit, sans cette onction, on va désobéir à la vision céleste. Faut le Saint-Esprit. Alléluia. Et après, la deuxième chose. Verset 20. Il s'est mis à prêcher. Il n'a pas attendu. Il s'est mis en action. Donc, verset 20. Il reste quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il vient de se convertir, aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Mais waouh, Paul, tu es un jeune converti et déjà tu témoignes. Et ça, c'est le cœur de Dieu. C'est de dire, voilà, on est équipé par la présence du ressuscité dans notre vie. Et après, verset 22, il dit, « Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus. » Alléluia. Il se fortifiait intérieurement de plus en plus. Même quand l'homme extérieur se périt, l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. Et ça, c'est la réalité de la résurrection en nous. C'est qu'il y a une force. Même qu'on est épuisé, même qu'on en a marre, même si on est attaqué, on peut se fortifier intérieurement par cette puissance de résurrection. Donc je vous laisse avec ces trois encouragements. Ainsi, je veux obéir à la vision céleste. Si ma réponse à la résurrection, c'est « Me voici Seigneur, envoie-moi », il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut commencer à parler de ce que Dieu t'a fait, ce que tu fais dans ta vie, ce que tu as entendu. Et après, il faut se fortifier de plus en plus avec cet homme intérieur par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et peut-être, dernier verset pour terminer. C'est un défi, hein? Acte 24. Parce que je ne veux pas le laisser à côté, hein? Et je montrerai combien il va souffrir pour mon nom. C'est le jour de résurrection. Mais quand même, Paul, on voit son esprit. Verset 22 de Acte 20. Et maintenant, voici que, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera. On va quitter, on ne sait pas ce qui va nous arriver cette semaine. Mais malheureusement, Paul, il savait ce qui allait arriver. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste, il entendait bien le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit atteste, et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Oh. C'est bon, mais si j'étais Paul et je dis, moi, cette semaine, des liens et des tribulations vous attendent, c'est terrible, allez, on paie. C'est après la messe, on envoie les gens. Et les liens et les tribulations vous attendent. Oh. Mais il a reçu le Saint-Esprit, Paul. Il a une vision de ressuscité. Il se fortifie dans son homme intérieur. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 24, je termine avec ça. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà, Paul. Il ne se perd pas dans toutes ces choses-là. Il dit, moi, je suis tellement rempli de ce désir de prêcher la bonne nouvelle. Voilà, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Voilà, peut-être je peux juste prier. Je vais prier que le Saint-Esprit vienne accompagner ces paroles. Juste ouvrez votre cœur là où vous êtes et recevez le Saint-Esprit. Seigneur, je reçois maintenant, Seigneur, Saint-Esprit, dans mon cœur. Seigneur, renouvelle l'onction sur ma vie. Je veux plus tarder, mais je veux entrer, Seigneur, dans ce que tu as préparé pour moi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, donne-moi l'onction pour accomplir ma tâche. Je ne veux pas désobéir à la vision céleste. Et donc, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi des paroles cette semaine à partager. Seigneur, et que je sois fortifié dans mon esprit, dans l'intérieur. Chaque jour cette semaine, fortifie-moi maintenant avec ces paroles. Fortifie-moi, Seigneur, et que je puisse accomplir ma course cette semaine avec joie, Seigneur, et être un témoin pour toi, au nom de Jésus. Amen. Amen.